Bonjour, nous sommes le groupe Elba, leader et acteur de référence dans l'univers du retail, du merchandising et du luxe. Nous sommes citoyens du monde, en quête de sens, d'amélioration et d'éco-intelligence. Je suis Hervé Proutot, curateur de tendance et explorateur d'idées, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast baptisé L'Oratoire. Ce podcast éco-responsable qui donne la parole à celles et ceux qui, par leurs idées, leurs visions et leurs actions, prennent part au plus grand défi de l'humanité, construire un futur désirable et durable. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne Mineur, designer, éditeur, enseignant et conférencier, dont le travail est axé sur les relations entre graphisme et interactivité. Vous êtes un spécialiste de l'IA, l'intelligence artificielle. On va donc essayer d'être intelligent et pas trop artificiel. Ouais. Hein. Bonjour Étienne.
Bonjour, enchanté.
Alors, on commence, c'est presque un gag, vous êtes né en mai 68, voilà. Donc évidemment, vous êtes un révolutionnaire ou un
enfant
prêt aux évolutions et vous êtes donc designer, éditeur et enseignant. Juste dans votre parcours, quels sont les deux trois faits très marquants, parce que vous avez un parcours long comme le bras, et vos premiers éveils à l'éco-responsabilité
En fait, tout le temps, j'ai pas eu de déclic, parce que je sais pas, moi, dans ma famille, on en a toujours parlé, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai 55 ans, comme vous dites, voilà, je suis né en 68. Donc, post-68ards, moi, je les connais, les post-68ards. Et, l'écologie, ils en parlaient, en fait, déjà. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire que l'écologie existe depuis, tout le temps, en fait. Voilà. Donc, ça, j'en ai entendu parler. Moi, j'ai eu un choc, j'ai eu la chance d'aller souvent au Japon. Et, au début, en tant que designer, dans les années 90, j'ai été fasciné par leur faculté à tout ce et packaging et emballage. Puis tout d'un coup, au bout de 3-4 jours, vous dites, mais là, c'est pas un peu beaucoup. C'est-à-dire, vous avez n'importe quel objet, une baguette et tout, il y a presque un triple emballage. Alors, en système de pliage, d'impression, c'est juste faramineux, c'est les meilleurs au monde. Et là, tout d'un coup, vous voyez, je me suis dit, ah mais là, quand même, c'est un peu beaucoup, vous voyez. Puis après, je me suis renseigné, je travaille avec des imprimeurs, je me dis, ah ben oui, nous, on n'a plus de forêt au Japon. On est sur les forêts indonésiennes. Oui. Voilà, tout d'un coup, parce que là, j'interviewais des graphistes, des designers, et ils m'expliquaient, eux, ils étaient au courant, que je dis, ben bien sûr, on a une sorte de surabondance complètement délirante et fascinante sur l'emballage, choses comme ça. Donc ça, c'était un choc. Par exemple, il a fallu que j'aille au Japon, à la fois fasciné par cette beauté bien et ce pliage. Moi, j'adore le pliage. Hein. Regardez ce que je fais. Voilà, des choses comme ça. Non, mais vraiment, voilà. Et puis en même temps, vous dites, oui, mais là, il y a un souci. Parce que quand vous avez une paire de baguettes, j'exagère après, à peine dans un beau restaurant, vous avez presque 3 emballages avant de trouver vos baguettes en bois qui sont jetables aussi, hein, qui est tout en bois. Donc, voilà, là, c'était dans les chocs. Après, c'est plutôt après, quand vous travaillez un peu dans l'industrie ou des choses comme ça, ou quand, par exemple, voilà, on parlait des pliages. Pendant le Covid, je me suis, comme tout le monde, hein, on s'est un peu retrouvé, moi, dans la chambre de mon fils. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à faire j'en faisais pas mal avant, mais vraiment des pliages sans colle, sans encre, sans rien. Ouais. Je me suis dit, j'avais pas d'imprimante, papier et un exacto, un cutter. Voilà, j'ai commencé à faire des sortes de sculptures en pliage et tout. Et là, après, je me suis dit, ça a commencé à mieux marcher. Les gens, merci les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez un retour assez vite là-dessus. Ça fait ma petite étude marketing, en gros, voilà. Et après, j'ai voulu les fabriquer. J'ai eu 300 commandes. Je me suis dit, comment je fais? En fait, là, j'ai vraiment cherché des cloches en verre, de qualité, des choses comme ça. Ça s'est fini en Chine. C'est-à-dire que j'ai pas eu le choix, parce que j'avais trouvé, pour tout vous dire, un prestataire en Angleterre. Puis en fait, il mentait. C'est-à-dire qu'il me disait, fait en Angleterre, mais je me suis renseigné. En fait, elles étaient faites en Chine. Et d'ailleurs, j'ai trouvé l'usine de clics, avec les mêmes références et tout, la même boîte et tout. Et après, j'ai cherché. Alors peut-être que j'ai pas assez cherché, mais voilà. Là, c'est quelque chose aussi étonnant de dire, quand vous voulez vraiment vous dire, je veux tout faire en Europe, voire même en France, alors ça, c'est pas possible. Juste du bois, du papier et du verre. En tout cas, moi, j'y suis pas arrivé. Voilà. Donc là, c'était vraiment dire, là, il y a vraiment un vrai souci de production. Voilà.
Je reviens, Étienne, tout de suite à votre parcours. Donc, directeur artistique, mais sur du parti particulier, c'est des Roms, etc.
Ah oui.
Pour des grandes maisons. chez aussi bien Issey Miyake, mais aussi Yves Saint-Laurent, etc. Design d'interface pour Nokia. Ouais. Vous fondez Volumic, qui est une maison d'édition en 2009. Et un studio d'invention, j'ai bien aimé, de conception et de développement de nouveaux types de jeux. Et puis, en 2020, vous revenez à l'intelligence artificielle. artificielle. Et là, vous creusez un peu les choses. Mmh. Et puis, vous êtes donc enseignant, conférencier, TEDx. Mmh. Et on peut vous écouter intervenir régulièrement ou ponctuellement à l'ENSAD, à Camondo, à la Haide de Genève. Voilà. Donc ça, c'est pour votre parcours, assez édifiant. Et pour rentrer dans le vif du sujet de l'intelligence artificielle, comme outil d'aide et pour créer des nouveaux modèles durables, comment, selon vous, l'IA peut prendre part à la conduite du changement et aider nos sociétés, bon, vaste question, à créer des nouveaux modèles et process durables?
Alors là, c'est une grande question, parce que actuellement, on est en 2024.
Vous avez 4 heures.
Voilà, c'est ça. Voilà, vous êtes prêts? Alors, je précise la date, si les gens nous écoutent plus tard, parce que là, on est
début 2024.
Début 2024, voilà. Et février 2024. Et on est actuellement dans une période qui est assez fascinante. On est vraiment à la période des cow-boys, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Alors, quand je dis pas de loi, il y a des lois. Mais c'est un peu l'expérimentation à tout va, ça part dans tous les sens. Voilà, on se retrouve au début du web, par exemple, voilà, avant l'explosion de la bulle Internet dans les années 90, pour les plus âgés qui nous écoutent. Donc c'est assez fascinant. Il y a des nouvelles techniques, des nouveaux usages, des mauvais usages qui arrivent. Voilà, ça part dans tous les sens. Et c'est là où c'est très important. C'est pour ça que moi j'enseigne en ce moment beaucoup dans des workshops, des choses comme ça avec les étudiants, parce que c'est à nous, alors là je parle de designers, mais toutes les professions, de trouver des bons usages avec ces outils. Il y a tout d'un coup, la technologie, les développeurs et surtout les mathématiciens nous offrent, en tout cas nous proposent une technologie qui est assez fascinante, qui est vraiment extrêmement puissante. Hein, vraiment, c'est quelque chose de... Pour tous ceux qui ont mis un peu le doigt dedans, c'est quand même assez fascinant et terrorisant. Mais à la fois, vous êtes très excité par ce qui se peut. Puis tout d'un coup, vous réfléchissez et vous dites « Ah oui, mais en fait, ça peut aussi mal se passer. » Pourquoi ça pourrait...
Comme toutes les grandes inventions.
Exactement. Voilà, on est vraiment un changement. Honnêtement, là plus ça va. Hein, c'est vraiment même comme l'apparition de l'informatique. C'est que tout d'un coup...
Exactement.
Sauf que là, ça arrive très vite. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'apparition de l'informatique... Donc,
et c'est exponentiel.
Voilà, suivant les professions. Je sais pas, moi, c'est en tant que graphiste, la fin des années 80, début des 90. Les architectes un peu après, musiciens un peu avant. Les gens du texte un peu avant aussi, voilà. Donc ça s'est étalé sur 20 ans, l'arrivée de l'informatique. Là c'est 2022-2023, ça arrive chez tout le monde. Et là il faut se poser plein de questions. Première chose, c'est que ça consomme énormément d'énergie, ces petites IA. C'est-à-dire que il y a pas, alors déjà vous avez un ordinateur. Déjà, c'est 75% du CO2 est déjà fait.
Alors, c'est ça. Les machines en elles-mêmes ont déjà utilisé...
En gros, on estime... Alors, moi, je suis pas scientifique, je suis designer, mais je lis pas mal de choses. On estime que quand vous achetez votre téléphone, par exemple, votre ordinateur, déjà, au niveau du CO2 et de l'énergie dépensée, 75% est déjà fait pour la fabrication de l'objet physique.
Oui.
Voilà. Et après, les 10 ans ou 5 ans à venir, c'est les 25% qui restent. Voilà. Donc, déjà... C'est, on va dire, mal parti. Enfin, vous voyez, voilà.
Mais ouais,
on est dans un.
On démarre avec un handicap.
Ouais, on démarre avec le frein à main. Voilà. Et après, surtout, ces IA, en fait, consomment. On est dans le cloud, c'est bien gentil. Non, on est sur des gros serveurs qui sont à côté des barrages, qui consomment de l'électricité, qui chauffent énormément. Et là, donc, ça consomme l'électricité. Donc, il faut faire attention, en fait. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, mais à bon escient. C'est-à-dire que si demander à une IA juste pour savoir si l'eau dépasse ses 6 minutes ou 7 minutes, là, il va falloir être un peu responsable. C'est-à-dire qu'après, on peut se débrouiller. Ou juste demander l'heure, vous voyez.
Bien sûr.
On peut le demander, hein, ChatGPT.
Bien sûr.
Donc là, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir une éducation, à mon avis, de dire attention, on a des outils extrêmement puissants. C'est comme là, prendre la voiture, pas de problème. Mais je crois que vous êtes venu en vélo.
Est-ce que c'est à plusieurs?
Exactement, c'est exactement comme ça.
Et pour quel type de trajet?
Voilà. Par contre, si j'ai amené cette personne, c'est recevable, on va dire.
Dans le coffre.
Par contre, si c'est juste pour venir, vous voyez, je viens de Montrouge pour venir ici, juste en voiture, ce matin tout seul, c'est peut-être pas la meilleure solution.
Bien sûr.
Voilà. Donc, et je pense qu'avec les IA, c'est la même chose. Il va y avoir un problème Il va falloir éduquer, alors moi le premier, tout le monde, qu'on connaisse bien les enjeux pour utiliser ces outils extrêmement puissants à bon escient et au bon moment. Parce que des fois, ça sert à rien. Hein, IA. Le mot intelligence est totalement usurpé. Là, on a un problème francophone parce que, vous savez, chez les anglo-saxons, intelligence veut dire aussi information. Alors que nous, c'est vraiment le côté smart, en fait, intelligent.
Ouais.
Et il y a un petit quiproquo là-dessus.
Et c'est vrai.
Alors que les anglo-saxons ont moins, en tout cas, moi, dans ma petite expérience, ont moins soucis. Alors que nous, on a vraiment.
Sinon, la CIA.
Ça serait l'intelligence, voilà, l'intelligence service, voilà, tout ça. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, il y a un petit quiproquo sémantique, déjà. Mm-hmm. Et surtout, étudiants ou professionnels, là je travaille avec pas mal de professionnels, très très vite, au bout d'une journée, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout intelligent. Par contre, c'est un outil qui peut nous aider dans des tâches très... On peut automatiser certaines tâches qu'on pensait créatives, c'est là où ça fait peur, mais qu'on peut automatiser, puis d'autres, pas du tout, enfin, vraiment zéro.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut... Alors, si on reste là sur des modèles durables et une aide au progrès vers vers ces cercles vertueux. Ouais. Comment, quand on a préparé ce podcast, juste, on a évoqué, vous m'avez parlé d'hallucination. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de donner quelques exemples de nouveaux matériaux plus durables qu'on peut essayer d'inventer ou sur lesquels on peut faire travailler l'IA
Ouais, bah en fait, ce nouvel outil ou ces nouveaux algorithmes, on appelle ça des modèles, hein, voilà, donc c'est des modèles, des algorithmes entraînés sur un corpus spécifique, peuvent nous aider dans... On dit techniquement qu'elles hallucinent. Donc c'est ça, quand les gens disent ChatGPT, Midjourney, fait toutes ces IA, mais ne font pas exactement ce que je veux ou me donnent des erreurs, les chercheurs disent, mais oui, c'est pas fait pour être précis, c'est pas pour donner, par exemple, jamais un avion va atterrir grâce à une IA générative de deep learning, c'est-à-dire qui hallucine. Il y a d'autres types d'IA, ce sont des systèmes experts qui là sont très précis, qui vont automatiser des choses et on sait exactement ce qui se passe. Là, dans ces IA, on a une sorte quand même de boîte noire, même si le nom est un peu usurpé, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, en tant que créatif, des choses comme ça, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est avec une entité qui a vu en gros toutes les images du monde, a lu tous les livres du monde, par contre, qui a une naïveté d'enfant de 2 ans, et qui n'a aucune morale, aucune éthique. C'est pas un problème, elle n'est pas raciste, n'est rien du tout. C'est juste, elle va vous sortir ce qu'on lui a donné. Donc ça, c'est
et elle important. Se base sur l'existant.
Et elle se base sur l'existant, et elle va halluciner. Et c'est là où c'est intéressant, parce que le fait qu'elle hallucine, elle va nous proposer des choses, elle ne sait pas que c'est impossible. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre vue, mais moi le premier, tout le monde, a nos biais, on a notre, automatiquement, par exemple, je suis designer, si vous me demandez de faire une affiche, un logo, très très vite, en discutant, je vois assez vite les images, les pistes qui se précisent. Par contre, automatiquement, je me ferme d'autres pistes. Et là, les IA, au contraire, permettent, là, je suis vraiment en mode créatif, d'ouvrir. Voilà, vous êtes à quelqu'un qui a une naïveté déconcertante, donc c'est génial, parce que tout d'un coup, elle va vous dire, mais en fait, on n'a pas essayé ça. Et vous vous dites, mais non, ça ne marchera jamais. Mais en fait, on peut essayer.
Et qui est d'ailleurs un des grands principes de la création.
Oui, exactement. De ne pas se fermer les portes.
Surtout, ne nous fermons pas. On est en brainstorming, voilà. Tout est possible, etc. Voilà. Et on a du mal à faire parce qu'on est humain.
Exactement. Et tout le monde, dans sa profession, ici, non, ça ne marchera pas. Vous voyez, les premières réunions de brainstorming, nous, par exemple, c'est interdit de dire non.
Exactement.
C'est pas grave. La première réunion, le non n'existe pas. Et là, les IA nous poussent là-dedans. Et après, par contre, il y a notre travail. Donc, justement, au niveau des problèmes, par exemple, tout bêtement, de packaging, d'écologie, voilà, de problèmes concrets. Oui. On peut vraiment lui poser la question et lui dire, délire, hallucine, et sur les 50 propositions que tu vas nous proposer, ou nous, par avance, on va dire, mais non, ça ne marchera jamais, en creusant un peu, tout d'un coup, dit, en fait, tiens, ça pourrait être intéressant, ou comme elle connaît à peu près tout lu, hein, on va dire, disons tout Wikipédia, tout d'un coup, dit, tiens, mais par exemple, avec des étudiants, tiens, on a trouvé un système de reliure japonais, genre médiéval, qui pourrait être adapté à notre problématique là, de 2024. Mm-hmm. Et voilà, et elle peut arriver. Alors après, il faut trouver les bons noms, il faut avoir la bonne culture pour aller bien chercher, permet de faire ressurgir des mémoires, comment dire, oubliées, ou des problématiques oubliées.
C'est ça qui est très rassurant, je trouve, c'est que il y a une possibilité quasi infinie, mais pilotée par nous-mêmes et par notre intelligence et notre bon sens qu'elle n'a pas forcément.
C'est ça. C'est-à-dire que toujours la grande question, alors j'ai pas de réponse à ça pour l'instant. En plus, ma position évolue, c'est nous, la place de l'homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une machine, honnêtement, qui parle mieux que moi, qui code mieux que moi, qui dessine mieux que moi, qui, en gros, fait à peu près tout mieux que moi. Vous dites... mais elle le sait pas et elle peut proposer n'importe quoi. Donc vous, en tant qu'humain, vous êtes plutôt un curateur ou un directeur artistique. Vous allez la diriger et vous allez juste prendre sur ces 50 propositions complètement farfelues, on va dire 2 et puis celle-là et celle-là, tiens, ça va nous ouvrir une piste auquel nous, humains, on avait complètement fermé la porte dès le départ pour des raisons de biais algorithmiques, des biais culturels, ou même d'habitude. Moi, par exemple, en police de caractère, en tant que typographe, je prends souvent les mêmes, ou les couleurs. On me le fait remarquer, des fois, je commence toujours par le vert, je ne sais pas pourquoi. On me fait remarquer, tiens, toujours. Et puis après, ça change. Mais voilà. Mais là, l'IA pourrait me permettre d'aller tout bêtement vers des rapports de couleurs complètement improbables,
mais,
par défaut, c'est du mauvais goût.
Accompagné par sens humain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne prend pas la place de...
Non, c'est pour ça que je suis assez positif, vous m'entendez. Alors, il y a des gros risques, on peut en parler après. Oui. Mais là, en tout cas, la plupart des gens avec qui je travaille se sentent assez vite rassurés en disant, voilà, j'ai une sorte de fauve, mais c'est moi qui suis le guide. Hein, c'est-à-dire qu'il faut le tenir en laisse.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la capacité de traitement de la data de l'homme qui ne pourra jamais être prise en charge et mesurer les impacts, établir des diagnostics? Est-ce que l'IA et sa force se calculent?
Alors, qu'est-ce qu'on peut...
Alors, l'IA actuelle, hein, quand on parle de l'IA actuelle, oui, c'est le deep learning, machine learning, elle ne sait pas compter. Elle connaît pas sa droite et sa gauche. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très étrange. Hein. On connaît sa droite et sa gauche depuis Noël, voilà. Et encore, c'est pas compté au-delà de 3, par exemple, mi-journée, les générations d'images. Donc, par exemple, on peut pas faire de la visualisation de data avec ces IA.
Un peu Emmanuel Macron, en fait.
si vous voulez, peut-être que c'est... Bah, on pourra en parler. Les discours politiques, là, ChatGPT fait très très bien. Hein. C'est-à-dire que vraiment, voilà. Mais parce que c'est des données statistiques, hein. Voilà, on donne des directions. Donc, en gros, il faut faire attention. C'est-à-dire que ça peut nous donner des pistes, mais par contre, dès qu'on passe, par exemple, truc tout bête, on design des vélos. Voilà, dans une école de design, hein. Ça nous fait des premières générations de vélos vraiment magnifiques, avec des lignes, des courbes, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Hein. Quand j'ai jamais vu, c'est vraiment ça, puisqu'elles vont mélanger différentes, influences,
existence,
influences, et après, c'est à l'humain de rajouter des pistes, des choses. Donc, on arrive à des choses. Par contre, très très vite, vous regardez de près, vous dites, mais jamais je monte sur ce vélo. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quoi sert un frein, il ne sait pas à quoi sert une selle ni un dérailleur. Vous voyez, il va vous mettre statistiquement, en gros, il y a deux ronds. Vous voyez.
Et donc là, il va sur un sens esthétique,
exactement,
qu'un sens pratique.
Exactement. Il n'a pas de conscience de notre monde physique. Alors, tous les chercheurs avec qui je travaille, avec un petit sourire, disent pour le moment. Il suffit qu'on lui apprenne. Et d'ailleurs, justement, j'en parlais hier à soir, je crois que c'est Samsung, en tout cas, en Asie, ils sont en train d'installer ces IA génératives, enfin ces IA, dans des robots anthropomorphes pour qu'elles aient, il ou elle, on va dire, la conscience de notre monde physique. Parce que pour l'instant, elles n'ont conscience, avec plein de guillemets, uniquement des données statistiques qu'on lui a données. Voilà, là, tout d'un coup, savoir, par exemple, une chaise. Pourquoi je suis bien assis? Là, par exemple, je suis bien tenu. Voilà. L'IA ne peut pas le savoir. Et là, si on le met avec un robot, là, tout d'un coup, ils vont augmenter. Pareil, on parle des futures intelligences émotionnelles. C'est-à-dire qu'on va essayer de simuler, toujours, je fais plein de guillemets si vous ne voyez pas.
Bien sûr.
C'est toujours étrange de parler. Voilà. Mais au niveau de l'émotion, puisque l'émotion est une puissance créative, voilà, en tant qu'humain, extrêmement puissante. C'est souvent grâce à l'émotion, on va arriver à trouver des pistes, des choses comme ça. Et donc, ces chercheurs, ces mathématiciens essayent de simuler, c'est toujours du simulacre, hein, c'est toujours de la simulation, mais qui est très bluffante. Voilà. Et il faut s'en servir, mais pour ce que c'est. Voilà, ne pas le faire passer. C'est toujours un assistant. Voilà, pour moi, il est un copilote, un assistant, un outil extrêmement puissant.
Un outil à disposition.
Voilà. Mais c'est moi qui décide. Voilà. Et c'est moi qui, en conscience de cause, dis, voilà. Par contre, elle n'est pas capable, de calculer, je sais pas, pour un architecte, des plans de masse, des structures, des choses comme ça. Par contre, elle est force de proposition esthétique. Alors ça, très fort. Mm-hmm. Par contre, dès qu'on passe, on va dire, dans le côté ergonomie, usage, par exemple le pliage. En packaging,
voilà,
elle n'est pas bonne.
Voilà.
Parce que le pliage, c'est vraiment humain. Ouais. Et c'est très complexe, en fait. Voilà.
Oui, mais il y a beaucoup de choses, on va dire, dans le secteur de l'artisanat, qui, par définition, est humain.
Oui, exactement. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'artisanat, pour tout vous dire. Ça va être un retour de l'artisanat face à ces images numériques générées. C'est 4 secondes actuellement pour faire une image incroyable. Et dans 2 ans, ça serait 1/100 de seconde. Donc, tout d'un coup, on va avoir une dévalorisation de tout ce qui est numérique, image, des choses comme ça. Parce qu'on va dire, oui, bon, c'est une image. Et puis, il y aura toujours ce doute. C'est peut-être fait par une IA ou pas, on ne sait pas. Voilà, ou un mélange, la plupart du temps. Par contre, le retour au tangible, ma chemise, votre costume, voilà, tout le vélo, tout ce qu'on imagine. Hier, j'ai assisté à un spectacle de danse. Voilà, j'étais avec des danseurs au premier rang. Là, vous dites... l'émotion que vous procure la respiration et le bruit d'un danseur ou d'une danseuse à côté de vous là pendant 20 minutes, ça, l'IA, c'est quelque chose de tout à fait impossible. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un retour assez important justement sur les objets physiques et même les objets uniques et l'artisanat. Voilà. En collaboration.
En bonne intelligence.
En bonne intelligence, exactement. C'est mieux que collaboration. En bonne intelligence avec l'IA. C'est ça, c'est trouver un beau balancier. Mais moi, je suis très enthousiaste. Voilà, les étudiants, par exemple, travaillent beaucoup en céramique dans les écoles d'art. Ouais. Ils font de la céramique, ils font de la photo argentique. Voilà, mais sans refuser l'IA. Voilà.
Ouais. Donc, par ce petit côté nostalgique. Les générations, les unes après les autres, où on aime toujours le vieux téléphone, le machin.
Un étudiant de 20 ans, un étudiant de 20 ans, la photo argentique, c'est très très. Enfin, il n'y a même pas de nostalgie, c'est une nostalgie, alors peut-être de ses parents, on va dire.
De ses grands-parents.
C'est sa vieille photo, mais c'est intéressant, mais avec un regard de 2024, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Voilà.
On en a parlé tout à l'heure, mais pour vous, en termes de bonnes pratiques et de points d'attention qu'on doit garder à l'esprit, est-ce que le premier geste pourrait être de limiter l'achat d'impulsion pour nous tous? Là, je reparle un peu consommateur, citoyen, consommateur, etc. Comment vous voyez... comment on peut encourager et espérer que le reconditionnement continue de se développer, que tout ça soit enclenché et aligné avec notre époque et pas simplement avec un système de surconsommation.
Alors pareil, j'ai pas réponse à tout. Alors de toute façon, on rentre dans une. Enfin, moi, je vois avec les étudiants un peu plus jeunes, on rentre dans une époque où on va être la frugalité. C'est un mot qui revient souvent. C'est-à-dire que tout d'un coup, où consommer localement. Voilà. Par exemple, là, je vais sortir un livre avec Nicolas Nova et Sabrina Calvo. C'est donc Nicolas Nova, sociologue, ethnologue, a travaillé sur Chamonix pendant 4 ans. Donc, Chamonix, c'est l'endroit où le changement climatique est le plus visible.
Absolument.
Alors là, si vous connaissez la mer de glace, c'est quand même, elle a reculé 3 kilomètres. Elle n'existe plus. Voilà. Il y a des montagnes qui s'écroulent. Parce que, voilà, le changement de température, je crois que les lacs ont augmenté de 4 degrés en 20 ans. Mmh. Donc, la faune et la flore changent. Voilà. Donc, on a fait un, donc, c'est un vrai document très scientifique, hein, très précis. Mmh. Et on en a fait un jeu de rôle. C'est Chamonix Sentinelle, ça s'appelle. Alors, je fais un peu de pub, il arrive aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce qu'on a travaillé justement avec des IA et il a fait une chronologie de moins 4000 à plus 2100.
Ouais.
Et donc, on propose aux gens un jeu de rôle, donc vraiment un jeu. Alors, on ne va pas attaquer des monstres, des dragons. Hein. On doit aller réparer une antenne 17G quelque part. On doit faire une expo d'art contemporain à Chamonix en 2078. Voilà. Mais on donne les clés aux gens, on donne une sorte d'état des lieux, pas du tout catastrophique. On dit voilà, tout d'un coup, ben là, par exemple, s'il va falloir fabriquer une maison, il n'y a pas de béton. Vous devez vous débrouiller avec les roches locales. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'essayer de trouver des solutions assez apaisées. Il y a en même temps, ben, il y a beaucoup moins de neige, mais il va y avoir beaucoup plus d'eau. Donc,
évidemment,
de barrages, des éoliennes.
Ça inclut du bon sens et du circuit court.
Exactement, c'est ça. C'est comment, par exemple, j'ai essayé de faire un livre, le livre qui a été fait, où les illustrations et tout, c'est marrant, j'ai fait du design fiction, genre, à quoi peut ressembler le design graphique, on va dire qu'il y a toujours des affiches. Il n'y a pas d'écran, en fait. Très peu d'écran. Mais on imprime juste en deux couleurs, mais avec des encres qui sont issues des algues des lacs. Donc, on n'a que de l'indigo et j'avais du rose, en fait, parce qu'on a trouvé une fleur. Donc, l'idée, c'est ça. Tout en restant créatif. Donc, c'est un jeu où je me suis beaucoup amusé là-dessus, pour tout vous dire. Mais c'est aussi, j'espère que les gens vont s'amuser aussi avec ce jeu. Et s'amuser, c'est très important, tout court déjà. Mais tout d'un coup, on n'est pas dans quelque chose de punitif. C'est comme un Lego. Vous avez une boîte de Lego, vous n'avez pas le mode d'emploi. Par contre, on vous dit, voilà, il n'y a plus que telle roche, telle plante. Il y a des cactus tout d'un coup dans les Alpes. C'est surréaliste. Hein. La flore change, la faune aussi. Ben voilà, avec ces nouveaux éléments, moi, je veux continuer à me promener. Je veux continuer plus ou moins à faire du ski. En tout cas, je veux continuer à dessiner, je veux continuer à chanter, je veux continuer à faire des choses, mais avec des éléments différents. Voilà. Et comment j'essaye de trouver des solutions. Donc ça, pour moi, c'est une solution assez intéressante parce qu'on l'a fait sous une forme ludique, mais avec une base sérieuse. Donc c'est pas du serious game, c'est un vrai jeu. Par contre, les bases sont très sérieuses et précises et on sait, il n'y a pas de secret, on sait qu'en 2050, voilà, le Mont Blanc, voilà, là, il y aura plus de neige, il y aura plus d'eau. Voilà. Donc ça, c'est une solution assez intéressante. Et après, c'est pas être dans le punitif, c'est justement, vous voyez, moi, je suis dans le domaine ludique, donc je raisonne souvent là-dessus, mais ça marche bien le ludique parce qu'on, quand on joue, on s'aperçoit pas qu'on travaille, entre guillemets, ou qu'on développe des idées. C'est-à-dire que la mécanique ludique, on est dans son petit cercle magique, voilà, on a designé un jeu, on est dedans, et en fait, on va mettre tous nos cerveaux à trouver des solutions pour gagner, ou en tout cas pour mieux réussir dans ce jeu, et après, on peut transposer ça dans notre monde réel. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Là, pour vous dire, je travaille aussi avec des ingénieurs, des chercheurs du CEA sur les batteries au lithium. Mm-hmm. Donc là, je suis sensibilisé vraiment à la matière première du lithium. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Et tout est basé sur l'électricité, notre monde. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Et on essaye de comprendre les données. Ça, c'est pas évident, des vraies données. Et après, c'est comment les transposer pour que quelqu'un qui ne soit pas chercheur ou un bac plus 18 puisse arriver à comprendre les enjeux et trouver lui-même des solutions sans qu'on lui impose d'une manière très dure. Voilà.
Donc, ça, c'est la façon positive, c'est quand même. C'est
ça, c'est une manière très positive. Voilà.
On dit souvent, on est citoyen le matin et consommateur passé quelques heures.
Oui, voilà. Mais après, moi, sur les jeunes générations, ils sont très sensibilisés de fait.
Alors, justement, pour conclure, parce que le temps passe vite, mais. Est-ce que vous partagez, un peu comme nous, le fait que l'IA reste avant tout un outil, un moyen, et qu'il faut vraiment l'envisager de la sorte, et que le rôle et le contrôle et l'accompagnement de l'homme est indispensable, et quelle est votre position par rapport aux fake news, et puis à tous les jeunes, justement, qui l'utilisent, jeunes et moins jeunes, et puis toutes les sources d'informations, mais quel est votre point de vue là-dessus?
Vous voyez, sur les intelligences artificielles, il y a un gros sujet sur tout ce qui est juridique au niveau des droits d'auteur. Honnêtement, ça me, enfin voilà, c'est, il va y avoir une évolution, mais c'est pas une révolution. Voilà, c'est me, il y a des gens inquiets, mais a priori pas à juste titre. Mais on va mettre ça. Et moi, ce qui m'intéresse et qui m'inquiète beaucoup plus, c'est justement cette facilité à faire de fausses informations. Déjà que là, depuis une dizaine d'années, on rentre le fait que la vérité, c'est plus, c'est un concept comme un autre, voyez.
Que les médias sont suspects.
Aux oui, oui, en plus, voilà, donc il y a de tout ce complotisme. Voilà, on est dans un monde quand même très curieux où on va douter de tout et au contraire, des fois, on va croire des choses complètement vraiment idiotes, entre guillemets, enfin, ou le bon sens, là, justement, de ces IA. Et en plus, les IA ont cette propension aussi à créer des fake news, mais sans le vouloir, elles.
Oui, oui.
Donc, en plus, si on les pousse un peu dans...
Alors, pour le coup...
On va dire, voilà, c'est ça, parce qu'elles, elles n'ont pas de sens commun. Parce que, comme disaient les chercheurs, attention, sur Internet, il y a des gens qui disent que la Terre est plate. Ouais. Et donc, l'IA peut le ressortir, parce que tout d'un coup, elle, elle n'a pas d'avis ni de sens commun. Voilà, le gros problème, c'est plutôt les fake news. Et très facilement, moi, par exemple, mon fils de 14 ans peut s'amuser à faire Emmanuel Macron avec sa voix qui va dire n'importe quoi. C'est arrivé, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, tous les jours, il y a des catastrophes, ouais. Des gens. J'ai vu, là, il y a une escroquerie. Alors, beaucoup d'escroqueries actuellement. Oui. Hein, c'est-à-dire que vous faites croire que votre femme vous appelle, vous faites un virement, ou au contraire, quelqu'un d'assez connu qui dit, voilà, il va falloir plutôt investir dans ce domaine. Ouais. Les gens le croient, et en fait, c'est totalement faux. Donc là, c'est là où le juridique et les contrôles extrêmement sévères et les barrières. Et là, il ne faut pas rigoler. Enfin, parce que là, c'est vraiment, encore hier, là, désolé pour ceux qui vont nous écouter plus tard, mais Mark Zuckerberg était une fois de plus devant le Parlement américain avec tous les grands GAFAM où on les accuse, ils laissent passer plein de fake news volontairement. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, ils le disent. Oui, mais là, ouais, mais non, parce que ça fait plus de...
Bien sûr, de buzz en et plus, de fréquentation.
Exactement,
et
donc, ces news violentes et fake news sont statistiquement, font plus le buzz, donc eux, ils ont tout intérêt à faire ça. Donc c'est très, très bizarre. Donc là, c'est là où, moi, voilà, alors je sais que l'Europe, avec l'IA Act, développe là-dessus. D'ailleurs, c'est pas trop les droits d'auteur, mais c'est plutôt sur le contrôle des fake news et la transparence des algorithmes. C'est ça qui est très important, parce qu'il faut faire attention. OpenAI, par exemple, c'est tout sauf open. C'est complètement fermé. Hein. Au début, c'était ouvert, hein. C'était basé sur l'open source, mais tout d'un coup, il y a deux ans, ils ont complètement fermé. Mid-journée aussi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur corpus et on ne connaît pas les algorithmes.
Étienne, comment et quels conseils donnez-vous aux étudiants pour éviter, je fais exprès de prendre les étudiants parce qu'ils ont l'excuse de la jeunesse et de l'apprentissage.
C'est les plus âgés, le problème.
Mais pour essayer de détecter et de faire attention à ne pas se faire
avoir
par une image, par un son, par les deux.
C'est triste. On est dans une époque où on doute de tout maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je vois passer des images, j'ai un joli flux Instagram. Ouais. Joli parce que je suis plein de graphistes et photographes.
Combien de millions d'images par...
C'est 100 millions par jour, je crois. Enfin, c'est du délire. Voilà. Enfin, c'est un truc... C'est et d'ailleurs, les IA de Facebook s'entraînent dessus. Voilà, on a en gros 100 millions vidéos et images comprises par jour, enfin c'est quand même. Alors là, en écologie,
on est dans un délire total. Comment on fait
En fait, alors j'ai pas de réponse. Alors si, il y a deux trois réponses. Si, la meilleure réponse que j'ai eue, c'est il y a deux jours, je travaille avec une journaliste justement spécialisée avec les fake news. En fait, elle fait plein de conférences et elle essaye plein de rédactions pour essayer dans le monde entier en plus. Mm-hmm. Alors elle leur dit, et moi je trouve ça très. Alors première chose, parce qu'il y a des outils qu'on nous vend pour détecter ces fake news. En fait. Il y a un énorme taux d'erreurs et surtout des faux positifs.
Voilà. Donc alors là, c'est horrible. C'est pire que tout.
Voilà. Moi, c'est ça, le pire que tout.
C'est un nuit d'erreurs.
Vous êtes photographe de guerre. Bon. Voilà, faites une photo. Voilà, vous témoignez de quelque chose et le système va dire non, c'est une fausse photo.
Alors donc ça, on écarte.
En tout cas, c'est pas fiable. Voilà. En fait, ce qu'elle disait, c'est votre cerveau. C'est-à-dire que comme un vrai journaliste, dites et ce sont des journalistes, dit d'abord. Qui produit cette image, quel est son but, à qui ça ne profite pas, essayez de raisonner. Alors, le problème, c'est qu'on est noyé sous un flux d'images délirants et on n'a pas le temps de faire ça. Là, ce sont des journalistes qui sont spécialisés.
Oui, c'est vrai, ils sont payés pour ça.
Ouais. Et heureusement qu'ils sont là. Voilà, c'est vraiment un rempart. Hein. Là, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais là, ils sont vraiment très importants là-dessus. Donc, et après, c'est au niveau légal, c'est-à-dire que par exemple, au niveau européen, on est quand même pas mal protégé. C'est que normalement, l'Europe va, les IA auxquelles on va pouvoir accéder facilement, alors bien sûr, dans un monde, on peut trouver tout et tout ce qu'on veut sur Internet, mais sur le web surtout. L'idée, c'est la transparence des algorithmes. C'est-à-dire, on veut connaître les algorithmes. Mmh. Et pourquoi, quand j'ai tapé... y a plein de biais algorithmiques. Par exemple, quand vous tapez PDG, CEO, pourquoi c'est toujours un homme? La représentation. Vous voyez, c'est les biais culturels et algorithmiques de nos bases de données, de notre monde.
C'est surtout que s'ils recherchent sur tout l'existant, l'instant, il y a toujours eu beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Donc, ils reproduisent les biais du passé. Ouais. Mais on veut savoir pourquoi. Quel est votre corpus? Et alors, après, il y a des problèmes de droits d'auteur. Ils ne veulent pas trop dire quel est leur corpus parce que, en ce moment, il y a un gros procès avec New York Times. Voilà. Donc, on rentre dans un monde compliqué. Mais en tout cas, c'est votre cerveau, première chose. Et si votre cerveau ne suffit pas, ce qui est souvent possible, c'est que la législation, en tout cas le législateur, impose à ses accompagne des registres, voire très très bien la transparence des algorithmes et surtout quel est ce qu'on appelle le corpus ou le dataset en bon français, quelle est la base de données sur laquelle il s'est entraîné et qui va influencer
finalement la source.
Exactement, la source. D'où ça vient tout ça. Parce que, voilà.
C'est passionnant. Alors, on finit vraiment avec une très grosse raison d'être optimiste, on en a parlé tout à l'heure, mais on est d'accord, mais j'ai presque envie de vous l'entendre dire, ce retour à l'authenticité, à l'artisanat, à l'envie de vivre, etc., n'est pas du tout incompatible avec l'IA.
Ah non, alors attention, j'ai peut-être moi aussi mes biais culturels et tout, mais moi j'interviens beaucoup dans plein d'écoles d'art, de design, en France, en Suisse et aussi à Montréal. En fait, ce que je vois, et ça fait un petit moment, c'est pas même avant l'arrivée de l'IA, c'est un retour justement au tangible, à l'artisanat, aux choses physiques. Et tout d'un coup, ça a d'autant plus de valeur, parce qu'en fait, ces jeunes, comme pourrait dire un vieux comme moi, en fait, sont nés avec le numérique. Ils sont nés, donc eux, c'est pas une nouveauté. Moi, par exemple, la première console de jeux vidéo, j'ai dû faire incroyable. On peut interagir sur une télé. Enfin, dans ma tête, ça explose. Et là, non, ils sont nés avec. Donc, eux, ce retour au tangible, à la sincérité du réel, en fait, vous voyez, c'est absolument. Tout d'un coup, même une petite aquarelle ratée a plus de valeur que la plus belle image sur Instagram, vous voyez. Parce que tout d'un coup, il y a un doute, cette image numérique.
Et puis, la perfection.
Exactement, la perfection humaine. Voilà. D'ailleurs, juste, peut-être pour finir, j'ai un copain qui me dit ça. Je ne sais pas si vous avez vu les CAPTCHA maintenant. ChatGPT est capable de répondre aux CAPTCHA. Par contre, on lui dit qu'il n'a pas le droit, mais il est capable de le faire. Et il me disait, peut-être que prouver pour humain, ce serait de rater un CAPTCHA. Vous voyez, c'était de montrer qu'on est faillible. Parce que ces IA peuvent. Alors après, il y a des IA qui vont faire simuler. Il y a une IA très célèbre qui fait exprès des fautes d'orthographe pour faire croire que c'est un vrai texte écrit par un humain et pas par une IA. Voilà. Après, on a toujours des systèmes de
mesure et contrôle, etc.
Mais en tout cas, c'est cette côté faillible. Émotionnelle qui est typique humaine et qu'il va falloir cultiver, et l'originalité, et un point de vue. C'est surtout un point de vue, parce que l'IA n'a pas de point de vue. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on dit aux étudiants dans tous les domaines. Moi, je parle de design, dans tous les domaines, c'est je veux un point de vue. D'accord ou pas, c'est pas le problème, je veux un point de vue, alors que l'IA va être très neutre, entre guillemets, et va vous proposer le tout et son contraire.
C'est le multigénéraliste absolu.
Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des hommes politiques et des discours où, en fait, on peut les accrocher nulle part, il n'y a pas d'aspérité. Ouais. L'IA est très forte pour ça. Et justement, l'humain, c'est quelqu'un qui va. Mais c'est pas pareil en musique et des choses comme ça, qui vont sortir de ce marasme.
Et qui va créer.
Vous voyez, on va arrêter, mais sur les scénaristes qui a raison ont très très peur, mais vous voyez, les scénarios de Netflix depuis 3-4 ans sont très normalisé et justement l'IA peut le reproduire facilement parce qu'il reconnaît les patterns.
Et c'est bien pour ça.
Et là, il va falloir que les humains
reprennent la main.
Voilà, exactement.
Merci, beaucoup Étienne. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous sur le site du groupe Elba, grâce à qui cette fenêtre d'inspiration existe et que nous allons développer au fil des prochains mois. N'oubliez pas de vous y abonner, de nous faire part de vos commentaires, de partager et de nous laisser vos avis. À très bientôt pour partager de prochaines discussion constructive sur le design, la RSE, avec des acteurs engagés comme vous, Étienne, qui contribuent, comme le groupe Elba, au changement et à la transformation des modèles d'hier pour qu'aujourd'hui et demain soient encore mieux.